Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. Où en est l'Europe ? Alors qu'un traité européen simplifié est dans les limbes, plusieurs acteurs de l'Europe, ses défenseurs en particulier, sont à la recherche d'une dynamique nouvelle, d'un moteur européen. Parmi eux, Robert Toulmont, inspecteur général des finances. Robert Toulmont a travaillé à la Commission européenne pendant de nombreuses années. Il a enseigné à Sciences Po. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Aimer l'Europe » aux éditions Ligne de Repère. Robert Toulmont, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce qui est frappant dans votre plaidoyer pour l'Europe, c'est la clarté de votre pensée, l'enthousiasme que vous y mettez. Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, a préfacé votre livre et il écrit « Fermeté du raisonnement, aucun jargon technocratique, nulle obscurité initiatique. Ce texte de référence apparaît comme un vitrail de clarté dans les brouillards de l'après-référendum du 29 mai. » Et dans ce livre, Robert Toulmont, vous qui connaissez si bien les arcanes de Bruxelles, vous vous donnez pour mission de lutter contre le pessimisme européen, le désamour de l'Europe. Et vous tentez de susciter ou de ressusciter un sentiment positif vis-à-vis de cette construction politique sans précédent. Et vous mettez en évidence que ce désamour n'est pas récent, qu'il ne date pas seulement du fameux référendum du 29 mai 2005, mais que dès le départ, les eurosceptiques ont intimidé en quelque sorte les amoureux de l'Europe. C'était les critiques de la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1950 et puis le rejet de la communauté européenne de défense en 1954.
Oui, en effet, je crois que ce livre est parti de la frustration, même de la colère que j'ai ressentie à l'échec du référendum et plus encore à la manière très maladroite, à mon avis, dont les défenseurs du texte l'avaient présenté aux Français. Et j'ai vu là l'aboutissement d'une longue évolution, plus exactement d'une longue erreur, imputable aux constructeurs de l'Europe, qui est d'avoir fait une confiance exclusive à la raison et de ne pas s'être rendu compte qu'une entreprise aussi ambitieuse, aussi extraordinaire, sans précédent dans l'histoire, que d'unir de vieilles nations qui, à tour de rôle, avaient occupé le premier rang dans le monde, en tout cas dans le monde connu, qu'une entreprise de cette taille et de cette difficulté ne pouvait pas se fonder seulement sur des arguments rationnels, mais devait faire appel aux sentiments. On n'a pas fait aimer l'Europe, mais on n'a pas essayé de la faire aimer.
Vous dites que ce désamour date des années 50. Vous dites que les constructeurs de l'Europe n'ont pas été assez majoritaires ou vous parlez même d'intimidation par des eurosceptiques ou qui ont tenté réfréner.
Il faut nuancer, bien sûr, dans les années 50, dès les années 50, enfin l'appel de Schuman est de 51, il y avait un certain enthousiasme dans une certaine jeunesse. Mais ça a toujours été une minorité. Le monde intellectuel était à l'époque dominé par le marxisme et comme vous le savez, le parti communiste a très violemment attaqué les projets européens et cela a conduit à une certaine méfiance de la part de tous les milieux intellectuels qui étaient influencés par le communisme à l'époque. D'autre part, le général de Gaulle, qui avait une certaine autorité, bien qu'il fût en exil en quelque sorte à Colombey les deux églises, a dès le début eu un jugement très réservé sur l'entreprise européenne. Il faut néanmoins tenir compte des apports qu'il a contribués plus tard, notamment en mettant la France en état d'appliquer le marché commun. Mais enfin, l'Europe, dès le début, a été un sujet de débat, de division, et par prudence peut-être, ses promoteurs, les deux principaux en France étant Jean Monnet et Robert Schuman, n'étaient pas des hommes doués d'un charisme extraordinaire. C'étaient tous les deux, à mon avis, de très grands hommes politiques qui laisseront leur nom dans l'histoire. Mais ils n'avaient pas le charisme du général de Gaulle. Et par conséquent, ils n'ont pas pensé pouvoir, mais ils n'ont même pas tenté de faire de l'Europe une grande cause susceptible de mobiliser une majorité de la jeunesse. Ça a toujours été des minorités, pas seulement dans la jeunesse, mais aussi dans les responsables politiques qui s'est passionné pour l'Europe. Ça n'était pas suffisant.
On n'y a-t-il pas justement un paradoxe dans le référendum du 29 mai 2005 et ce non majoritaire? N'y avait-il pas chez les nonistes, comme on les appelle, un espoir d'Europe, justement, un sentiment européen qu'il souhaitait que le traité aille plus loin que ce qu'il était?
En effet, ça n'était pas la majorité, mais il y avait en effet, parmi ceux qui ont voté non, une fraction non négligeable qui trouvait le traité insuffisamment ambitieux. Ça, c'est un débat que nous avons eu depuis le début entre ceux qui voulaient une Europe idéale, mais impossible, inatteignable, car l'Europe, on ne peut pas la faire tout seul. Il faut la faire avec des partenaires. 5 partenaires au départ. Aujourd'hui, nous en sommes à 26, puisque plus la France. Enfin, la France a 26 partenaires. Donc, vouloir une Europe idéale, conforme à ce que l'on pense, à ses convictions en tout point, c'est évidemment une utopie. L'Europe du réel, l'Europe atteignable, réalisable, est forcément, comme toutes les réalisations politiques, quelque chose d'imparfait, d'inachevé. Et il y aura toujours des gens qui refuseront l'Europe du possible au nom d'une Europe de l'idéal, mais de l'impossible.
Mais l'interprétation commune du référendum du 29 mai n'a-t-elle pas été de croire qu'il s'agissait d'un rejet global de l'Europe et donc d'en faire un sujet tabou, désormais?
Oui, vous avez raison. Il y a eu en effet une tendance des gouvernements de considérer que ce vote négatif des Français et des Néerlandais signifier un désamour plus général de l'Europe dans l'opinion. Il y a là-dessus d'ailleurs des opinions très contradictoires. On dit généralement en France que s'il y avait eu un référendum en Allemagne, le résultat aurait sans doute été le même. Mais il n'empêche que j'ai entendu deux hommes d'État allemands expliquer que le résultat en Allemagne aurait été positif, selon eux, parce que, disaient-ils, les socialistes qui étaient le SPD, qui étaient alors au pouvoir, ne se seraient pas divisés, allusion à ce qui s'est produit au sein du Parti socialiste français, et il y aurait eu une campagne très forte et très convaincante, allusion à la faiblesse de la campagne de l'ancien président de la République.
Alors que pensez-vous, monsieur tout le monde, du traité européen simplifié qui est rédigé en ce moment?
Eh bien, j'en pense d'abord qu'il n'est en rien simplifié. Il est au contraire beaucoup plus compliqué que ne l'était le traité constitutionnel. Disons qu'il est allégé. Il est allégé de cette fameuse partie 3 qui a été la cible des critiques des partisans des nonistes de gauche qui ne faisaient que reprendre les dispositions existant dans les traités antérieurs, ce qui fait que le vote non avait ceci de paradoxal, et qu'il avait pour résultat de faire tomber des réformes institutionnelles qui en fait n'étaient pas critiquées, et qu'il laissait intactes les dispositions concernant les politiques qui étaient déjà dans les traités existants. Reconnaissons néanmoins qu'il y avait quelque chose de vrai dans l'affirmation suivant laquelle on allait graver dans le marbre des politiques libérales ou des mécanismes libéraux qui étaient certes dans les traités, mais qui n'étaient pas constitutionnalisés. Argument d'ailleurs lui-même discutable, car les traités ont valeur de constitution, puisqu'on ne peut les modifier que par unanimité, ratification des parlements nationaux.
Ou qui avait échappé pour l'instant à l'opinion publique.
Oui, qui avait échappé à l'opinion publique, je ne sais pas. Je crois que le marché commun, l'opinion publique a très bien compris les bienfaits qu'elle a apportés à l'économie et qu'elle a été un moteur de développement. D'ailleurs, à l'époque de la mise en œuvre du marché commun, les partis de gauche ne le critiquaient pas. Et même les communistes avaient mis une sourdine à leurs attaques. Ils ne proposaient plus, sous le général de Gaulle, lorsque le marché commun a été mis en œuvre, même les communistes ne proposaient plus que la France se sortît du marché commun. Non, il faut ajouter que l'argument concernant la partie 3 était affaibli d'ailleurs par le fait que dans la partie 3, qui a été rejetée avec le traité, il y avait un chapeau indiquant que toutes les politiques devait prendre en compte la dimension sociale et la dimension environnementale. Alors, ce chapeau a disparu dans le traité abusivement dit simplifié.
L'Europe, dites-vous, peut être un moteur économique. Et c'est une idée que nous avons souvent oubliée, puisque l'Europe est aujourd'hui plutôt synonyme de délocalisation, de laboratoire d'une mondialisation ONI. Et la BCE, la fameuse Banque Centrale Européenne, est au centre des critiques.
Alors, pour répondre à votre question, permettez-moi de faire un petit retour à l'introduction de mon livre, parce que je vais y trouver la réponse. On peut aimer l'Europe, dis-je, pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle pourrait être, pour ce qu'elle pourrait faire si on lui en donnait les moyens. Et en troisième lieu, il faut aimer l'Europe pour les services qu'elle peut rendre à l'humanité en contribuant à un ordre mondial meilleur. Alors, aimer l'Europe pour ce qu'elle est, ça vaut quand même quelques secondes, je rappelle, n'est-ce pas ? Ça n'est pas seulement la paix et les conditions de la prospérité, c'est l'invention d'un type nouveau de relation entre les peuples, où l'intérêt général l'emporte sur les intérêts particuliers et où les conflits se règlent par le droit et devant les tribunaux et non pas sur les champs de bataille. C'est un progrès immense. C'est une révolution extraordinaire, encore une fois, dès lors qu'elle s'applique à des pays qui avaient été des grandes puissances impériales. Il faut toujours se souvenir de cela, et ceci n'est pas suffisamment expliqué. On peut prendre une image. La France a toujours vécu dans le souvenir de la guerre précédente et dans la préparation et la crainte de la guerre future. Elle a toujours eu des ennemis à ses frontières. Tantôt c'était les Anglais ou les Espagnols. Ensuite, ça a été les Allemands depuis deux siècles. Or, pour la première fois dans son histoire, la France n'a que des amis, des gens avec qui elle coopère étroitement sur toutes ses frontières. C'est aussi un changement absolument extraordinaire et qui n'a pas été suffisamment expliqué, qui encore aujourd'hui n'est pas suffisamment expliqué. Mais alors, mon second point, qui est un paradoxe apparent, est de soutenir qu'on peut aussi aimer l'Europe pour ce qu'elle n'a pas fait et qu'elle aurait pu faire si on lui en avait donné les moyens. C'est-à-dire l'aimer comme un instrument qui reste à notre disposition si nous voulons bien l'utiliser. Malheureusement, pour des raisons diverses, en partie les contradictions de la politique française qui font l'objet de mon premier chapitre, en finir avec une contradiction française qui consiste à vouloir une Europe volontaire, une Europe puissante, une Europe active, mais à lui en refuser les moyens institutionnels. Pendant très longtemps, la France s'est opposée aux décisions à la majorité. C'était un des leitmotifs du général de Gaulle, compromis de Luxembourg. Et elle s'est même opposée, alors plus récemment, sous le président Chirac, à ce que le budget soit augmenté. Or, il est évident qu'une Europe sans moyens de décision majoritaire, enfin, c'est-à-dire paralysée par le veto et sans budget, avec un budget dérisoire représentant 1% du produit national, ne peut pas faire face aux défis en présence desquels elle se trouve. Et parmi ces défis, il y a bien sûr les défis extérieurs, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi le défi de la croissance économique. Alors évidemment, cette difficulté s'accroît du fait que des divergences de vues existent, non seulement au sein de chaque pays, mais entre les pays, entre des modèles différents. C'est évident que les Britanniques, fidèles à leur doctrine de libre-échange, voient dans l'Europe essentiellement un système d'échange et un cadre de coopération traditionnel, interétatique, diplomatique. Mais ils se refusent à y voir une entité capable de conduire des politiques volontaristes, qui est évidemment ce qui serait le souhait des Français. Mais pendant très longtemps, nous avons refusé à l'Europe, encore une fois, les moyens de décider et de conduire ces politiques volontaristes. Maintenant, nous y serions sans doute davantage prêts. Et c'est trop tard, parce que avec l'adhésion de nombreux États, c'est plus difficile qu'autrefois.
Alors, la question d'une Europe politique, d'une intégration par davantage d'économie, par davantage de culture, d'environnement, de social, par un traitement global de l'immigration, ces questions sont régulièrement abordées et jamais mises en œuvre. Et ce que vous dites, c'est que c'est le débat qui annule toute initiative ?
Ah non, ce n'est pas le débat, ce serait plutôt l'absence de débat. Non, d'abord, il faut quand même voir, le verre n'est pas vide, il est à moitié plein ou à moitié vide. Mais l'acquis de l'Europe en matière économique, sociale, environnementale est considérable. En matière économique, malgré les difficultés des dernières années, il n'empêche que nos pays sont parmi les plus prospères du monde et ceux où la qualité de la vie est la meilleure. Si l'on voit les problèmes non seulement du niveau de vie en termes monétaires, mais les services sociaux, les services d'éducation, les garanties sociales qui existent en Europe et qui n'existent pas, ou en tout cas pas au même niveau, ni aux États-Unis, ni au Japon, pour prendre des pays les plus développés et aussi riches ou plus riches que nous. En matière sociale, on oublie qu'il y a toute une série de directives qui ont étendu des garanties, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de durée du travail, que nous connaissions nous, mais que ne connaissaient pas d'autres pays d'Europe, mais notamment ceux qui nous ont rejoints. Donc, de ce point de vue, l'Europe a été un facteur de progrès. Il ne faut pas oublier non plus, permettez-moi, parce que c'est très important, la contribution que l'Europe a apportée au changement de la condition des agriculteurs. Et il y a eu quand même une modernisation formidable de l'agriculture, et il y a encore aujourd'hui des aides considérables aux agriculteurs. Et puis, il y a le rattrapage des régions en retard. La politique régionale a été un grand succès. Les régions françaises, notamment les régions périphériques, les îles, ont beaucoup bénéficié des aides européennes. Mais alors, des pays comme le Portugal, la Grèce, l'Irlande en ont bénéficié d'une façon extraordinaire. Vous savez que l'Irlande est devenue un des pays les plus riches d'Europe, plus riche que la Grande-Bretagne. C'est incroyable quand on pense à ce qu'était l'Irlande. Et maintenant, nous voyons, je suis convaincu, que nous allons assister à l'émergence des pays de l'Europe centrale qui ont des taux de croissance de 7-8% et qui vont par conséquent en 20 ans rattraper le niveau ouest européen. Tout ceci n'est pas négligeable du point de vue social. Ça signifie un changement de la condition des hommes. Mais évidemment, on aurait pu aller plus loin et on aurait pu notamment prendre en charge, davantage qu'on ne l'a fait, les victimes de la mondialisation. Ce n'est que tout récemment qu'on a créé un fonds pour faire face aux problèmes des délocalisations dues à la mondialisation. Mais là encore, ce fonds est insuffisant, est insuffisamment doté, et les critères pour en bénéficier sont trop sévères.
Vous parlez de délocalisations qui sont dues à la mondialisation ou qui sont dues à l'intégration européenne aussi.
Ah, il faut distinguer les délocalisations à l'intérieur de l'Europe et les délocalisations à l'extérieur. Mmh. Ce sont plutôt les délocalisations vers la Chine qui ont fait souffrir dont se plaint. Délocalisation à l'intérieur, il y a un côté négatif, mais il y a aussi un côté positif. C'est que c'est très souvent accompagné de l'ouverture de marché. Lorsqu'une entreprise française crée une usine en Pologne ou en République tchèque ou en Roumanie, elle y exporte des machines, elle exporte des méthodes de gestion. Enfin, c'est une source de richesse aussi pour la France. Donc, il faut avoir là-dessus un jugement nuancé. Mmh.
Vous parlez de ce que l'Europe aurait pu faire. Qu'est-ce que l'Europe doit faire aujourd'hui ou demain?
Bien, distinguons, si vous voulez, la politique étrangère et je crois que la plus grande urgence aujourd'hui, c'est de donner à l'Europe le moyen de jouer un rôle dans le monde, un rôle positif, aider le monde à relever les défis auxquels il fait face. Il y a des dangers considérables, il suffit de penser à l'Iran, il suffit de penser à l'extrémisme islamiste, mais aussi au changement de climat. Dans tous ces domaines, l'Europe peut, si elle est unie, exercer une influence bénéfique. Elle peut aussi contribuer, ça c'est le dernier chapitre de mon livre, à une réforme des Nations Unies, qui sont actuellement paralysées par toute une série de raisons qu'il serait trop long de développer maintenant. Bon, l'Europe doit se doter de moyens de défense. Pour que sa politique étrangère soit prise au sérieux, il faut qu'elle construise une défense. Et là, il y a une première étape à franchir, qui est de mettre en commun les dépenses d'armement, les dépenses de recherche en matière d'armement. Nous avons actuellement un déséquilibre de puissance avec les États-Unis qui est gigantesque parce que $1 ou 1 euro dépensé en Europe a 10 fois moins d'efficacité qu'1 euro dépensé aux États-Unis à cause de la dispersion entre tous les budgets militaires des différents États membres et l'absence d'intégration des industries d'armement. Alors, il y a des premiers pas avec la EADS notamment. Enfin, il y a beaucoup à faire. On a créé, là encore, c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure, on a créé une agence d'armement, mais on ne lui a pas donné de budget. Et donc, elle joue un rôle d'entremetteur honnête, si vous voulez, pour essayer de favoriser les rapprochements, les coopérations, mais elle n'a pas la puissance qu'elle aurait si elle avait un budget, au moins pour la recherche, car c'est dans le domaine de la recherche que nous avons le plus grand retard par rapport aux États-Unis. C'est vrai en matière de recherche militaire, c'est vrai aussi en matière de recherche civile.
Vous consacrez tout un chapitre à l'élargissement.
Et alors ça, vous m'avez, excusez-moi, je vous interromps, parce que vous m'avez demandé ce que l'Europe pourrait faire.
Oui.
Elle pourrait faire beaucoup en politique étrangère et en défense, mais elle pourrait aussi faire beaucoup en ce qui concerne un autre problème qui préoccupe nos concitoyens, la sécurité intérieure. Le crime s'est internationalisé. Il y a aujourd'hui des organisations criminelles, qu'il s'agisse du commerce de la drogue, qu'il s'agisse des mafias, du racket à l'échelle internationale, qu'il s'agisse du trafic des œuvres d'art, qu'il s'agisse du trafic des êtres humains, avec des réseaux de prostitution, parfois même de prostitution enfantine. Ben, les criminels ont bénéficié de l'ouverture des frontières. Et le retard de l'organisation de la lutte contre le crime est une des préoccupations de l'opinion publique. Alors là, il y a des progrès dans le traité, quand le traité sera mis en vigueur, mais il y a encore des freins du fait des Britanniques qui ont obtenu des dérogations en ce qui concerne l'intégration des forces de police et la coopération entre les tribunaux.
Non, monsieur tout le monde, vous parlez surtout de défense, d'armement, de politique étrangère commune. Est-ce que les Européens n'attendent pas plus de politique sociale, de politique environnementale? Est-ce que ce n'est pas ça l'entente des Européens?
Eh bien, oui et non. Si vous voyez les sondages, notamment les sondages de l'Eurobaromètre, vous verrez qu'il y a une majorité sur la... Quand on demande aux gens de quoi l'Europe doit-elle s'occuper, il y a une majorité pour dire qu'elle doit s'occuper de politique étrangère, de défense et de sécurité. Et l'économique et le social vient après. Non pas du tout que les gens considèrent que les problèmes économiques et sociaux sont moins importants, mais ils sont sensibles à l'idée que dans ce domaine, l'Europe, c'est bien loin, et que ça, c'est plutôt l'affaire des pouvoirs nationaux et parfois même des pouvoirs régionaux.
Et quelle est votre opinion là-dessus? À quelle échelle ça doit se faire?
Eh bien, je crois que ça doit se faire à toutes les échelles. C'est une des difficultés, d'ailleurs, du monde actuel. C'est qu'il faut apprendre la citoyenneté multiple. Rien ne peut se régler. Aucun problème ne peut être réglé qu'à un seul niveau. La plupart des problèmes supposent des actions au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau continental et parfois au niveau mondial. Lorsqu'on atteint des problèmes comme la lutte contre le réchauffement climatique, on voit bien qu'il y a des nécessités d'agir à tous les niveaux. Et le rôle essentiel de l'Europe, c'est d'agir dans les domaines où les États n'ont pas la possibilité d'agir efficacement seuls, soit en harmonisant les politiques des États, soit en développant ses propres politiques. Mais jusqu'à présent, les gouvernements acceptent que l'Europe harmonise ou coordonne les actions nationales, mais ils sont beaucoup plus réticents à donner à l'Europe des moyens de développer des politiques qui lui soient propres. Parce que, évidemment, ils disent tous les moyens donnés à l'Europe sont autant de moins que nous aurons. Et tout ce qui est positif vis-à-vis de l'opinion publique, tout ce qui est aide, tout ce qui est prise en charge de difficultés, est quelque chose qui est auquel les hommes politiques s'intéressent, parce que c'est ça qui leur permet de faire plaisir à leurs électeurs. Donc, ils préfèrent donner à l'Europe, faire de l'Europe un père fouettard, donner à l'Europe la charge de surveiller la concurrence, les ententes, les aides, mais pas de développer des politiques qui pourraient la rendre populaire au détriment des États membres.
Et c'est peut-être ça qui ferait aimer l'Europe.
C'est une des raisons pour lesquelles existe ce désamour de l'Europe.
Un autre sujet du désamour, c'est, je pense, l'élargissement, qui est une des raisons du rejet du traité européen de 2005.
Oui, alors là aussi, l'élargissement, à mon avis, est un immense succès, dans la mesure où tous ces pays, d'abord, ont été libérés en partie, parce que le succès de notre intégration comparé à l'échec du Comecon à l'Est est une des raisons de l'aveu même de Gorbatchev qui a amené les soviétiques à être découragés, à ne plus croire dans leur propre entreprise. Donc, sans en tirer un coup de feu, nous avons contribué simplement par notre propre existence à la libération de ces peuples. Bien, pourquoi dis-je que c'est un immense succès ? Parce qu'il n'était pas évident que tous allaient se tourner vers nous et que tous allaient accepter les contraintes très sévères que nous leur avons imposées, certes dans leur intérêt, comme je le dis, mais enfin qui quand même sont des contraintes assez dures à accepter pour des pays qui viennent de retrouver leur souveraineté.
Et contre lesquels certains peuples se révoltent aujourd'hui, on le voit dans les résultats des urnes.
Oui, eh bien non, justement, le résultat des urnes polonaises nous montre exactement l'inverse, chère madame. C'est que les frères Kaczynski, le parti du Premier ministre Kaczynski vient d'essuyer un revers au profit d'un parti qui se déclare au contraire pro-européen, disposé à prendre en compte la charte sociale.
Est-ce qu'il ne manque pas à l'Europe, pour terminer, un souffle de démocratie ?
Non mais attendez, quand j'ai dit que l'élargissement est un succès, il faut aussitôt ajouter qu'il n'a pas été ressenti comme un succès, parce qu'il n'a pas été précédé, comme il aurait dû l'être, par une réforme des institutions, cette fameuse réforme des institutions qui va enfin aboutir, mais qui, à mon avis, est encore insuffisante. Ça, comme d'ailleurs le traité constitutionnel, car sur ce point, il n'y a pas une très grande différence, sauf de forme, entre le traité constitutionnel et le nouveau traité, dit simplifié. L'élargissement aurait dû être précédé par une réforme des institutions et par une réforme des finances de l'Union. Évidemment, avec la charge que représente l'aide à ces nouveaux pays, c'est autant de moins dont dispose le budget pour les nombreuses tâches auxquelles ils devraient faire face.
Vous parlez de réforme des institutions. Est-ce qu'il ne manque pas, même dans le traité européen dit simplifié, un souffle de démocratie nouvelle ? Est-ce que, pour dire les choses très simplement, Bruxelles n'a-t-il pas peur de la base du peuple européen et réciproquement ?
Ben, c'est pas, quand vous dites Bruxelles, on ne sait pas de qui il s'agit.
Conseil
des ministres siège à Bruxelles. Alors, s'agit-il des gouvernements ? S'agit-il de la Commission ?
Non, je pense surtout au Parlement européen. Je pense que vous ne pensez pas que le Parlement européen n'a pas encore le rôle qu'il pourrait avoir ?
Oui, il n'empêche que c'est de toutes les institutions communautaires, celle qui a vu son pouvoir et son influence grandir le plus au cours des dernières années. Sans doute, la masse de l'opinion publique n'en est pas consciente, mais je vous assure que les gouvernements, eux, en sont conscients. Vous avez deux problèmes récents de très grande ampleur qui ont été résolus au Parlement et non pas au sein du Conseil des ministres, qui est quand même une nouveauté extraordinaire. La fameuse directive Bolkestein, transformée, allégée et adaptée, a été l'objet d'un compromis au sein du Parlement, qui a été entériné par les gouvernements, par le Conseil des ministres. De même, la directive sur les produits chimiques, sujet ô combien important, en ce moment, on parle tous les jours de l'amiante et des pesticides, où il y avait un conflit très difficile à résoudre entre les intérêts de l'industrie, notamment de l'industrie allemande, vous savez l'importance de l'industrie chimique en Allemagne. Donc les intérêts de l'industrie contre les intérêts des consommateurs, le principe de précaution, jusqu'où veut-on aller ? Vous savez que monsieur Attali souhaite supprimer, le comité Attali envisage de supprimer le principe de précaution. Si on en fait un usage excessif, il n'y a plus de progrès possible. Donc c'était un sujet vraiment très très difficile où les intérêts étaient, et les passions aussi d'ailleurs, étaient très opposés entre les productivistes d'un côté et les environnements, les écologistes et les défenseurs des consommateurs de l'autre. Eh bien c'est au sein du Parlement qu'est intervenu le compromis. Alors, bien sûr, ça ne suffit pas à donner à l'Europe le souffle démocratique qui lui manque. Ce qui manque à l'Europe pour qu'elle s'incarne aux yeux des citoyens, c'est un gouvernement. Alors, elle va avoir, me direz-vous, un président. C'est une des innovations du traité qui a été reprise du traité constitutionnel. Il va y avoir un président. On dit toujours à mandat prolongé, un président du Conseil européen à mandat prolongé. Ce qui est important à mes yeux, ce n'est pas qu'il soit à mandat prolongé, c'est qu'il n'exerce plus de fonction nationale. À partir du moment où on aura un président du Conseil européen qui n'exercera plus de fonction nationale, ça deviendra un monsieur Europe à temps plein. Mais à ce moment-là, il va se trouver en rivalité avec le président de la Commission. Ça va être deux personnalités de même profil. choisi parmi les anciens premiers ministres, vraisemblablement l'un et l'autre. C'est la raison pour laquelle je plaide dans mon livre et dans des articles que j'ai publiés depuis pour une fusion de ces deux présidences qui n'est pas prévue dans le traité, mais que le traité n'interdit pas, puisqu'il est prévu que le président du Conseil européen ne peut cumuler cette fonction avec aucune fonction nationale, mais on ne dit pas qu'il ne peut pas les cumuler avec une autre fonction européenne. Et je crois que si l'on veut que l'Europe soit visible pour ses citoyens et dans le reste du monde, il faut qu'elle ait non pas deux présidents, mais un seul, et que ce président soit à la tête d'un gouvernement. Et là aussi, je fais une proposition, puisqu'on a créé un ministre à double casquette, on ne l'appelle plus ministre, pour faire d'ombre, pour ne pas donner l'impression que l'Europe est un État. Mais enfin, il aura les mêmes prérogatives, n'est-ce pas ? Qui sera à la fois désigné par le Conseil et vice-président de la Commission. Je dis cette formule, pourquoi ne pas l'appliquer à quelques autres domaines très importants, comme la monnaie, comme la défense, comme la sécurité, et ainsi constituer une sorte de cabinet politique au sein de la Commission, avec ce président unifié et une série de ministres, entre guillemets, qui donnerait aux citoyens l'impression qu'il y a une autorité à laquelle on se réfère et que l'on peut contrôler, que le Parlement européen pourrait contrôler. Actuellement, le système est tellement compliqué, et le traité dit simplifié va le compliquer un peu plus, puisque désormais, nous aurons deux Monsieur Europe, le président du Conseil européen et le président de la Commission.
Alors, puissent vos conseils être entendus, Monsieur Toulmont. Je rappelle le titre de votre livre, « Aimer l'Europe », aux éditions Ligne de Repère. Ce livre a été publié en 2007. Merci beaucoup, Robert Toulmont, d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Merci. Merci à vous. Thank you.